Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais revenir encore une fois sur la vertu de force, parce que plus je vous l'expose, plus je l'étudie pour vous l'exposer, plus je constate qu'on en a sous-estimé l'importance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très important et pourtant, je crois, rarement traité de la vertu de force, à savoir qu'elle est d'abord au service de la société avant d'être au service de la perfection de l'individu. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de la vertu de justice, je vous ai dit que la justice était une vertu générale, c'est-à-dire qu'elle mettait tout à son service. Elle met l'homme à son service, mais elle met l'homme avec ses facultés. Et donc, elle met la force à son service. Ce qui fait que la force devient quelque chose de nécessaire, l'exercice de la vertu de force devient obligatoire par commandement du bien de la société, au nom de la justice. Cette vertu de force est donnée lors de la confirmation. Alors, tous les dons du Saint-Esprit sont donnés lors de la confirmation, mais on insiste particulièrement sur le fait que la confirmation vient faire des adultes capables de défendre leur foi et l'Église. La confirmation vient rendre adulte pour défendre la foi et l'Église. C'est plus que la vertu de force, puisque c'est le don du Saint-Esprit. Le diacre également est ordonné ad rebours pour la force, l'exercice de la force. On le voit très bien chez tous les martyrs, bien entendu, chez le diacre Saint-Étienne, par exemple. Que la force soit au service de la société, alors c'est la société civile, d'une part. On pense aux guerres, il faut beaucoup de force, évidemment, pour accepter de perdre ses biens, son confort, sa vie, lorsqu'il faut défendre la patrie. C'est l'exemple que donne saint Thomas parce qu'il est le plus parlant. Mais dans nos temps actuels où la patrie ou la société est attaquée, risque de se perdre par une subversion, il faut de la force pour lutter contre la subversion. Or, la subversion peut venir soit de l'extérieur, soit du chef. Et aujourd'hui, la subversion vient très souvent du chef. Et donc, la vertu de force dont je vous ai dit qu'elle était obligatoire, son exercice était nécessaire, cette vertu de force oblige à s'opposer à toute subversion, y compris la subversion des chefs. Lorsqu'il s'agit de l'Église et de la foi, c'est encore plus net et plus grave, parce que la vertu de force oblige à ne rien craindre, ne pas craindre de perdre quoi que ce soit, du moment qu'il s'agit de la défense de la foi et de l'Église. Et quand on dit de la foi et de l'Église, c'est évidemment avec tout ce que cela comporte et englobe. Monseigneur Lefebvre a surpris par sa force, et c'est justement parce que la vertu de force et le don ont été très oublié, très méprisé, que on a été surpris par cette force de Mgr Lefebvre. On aurait dû trouver cela normal. Dans les périodes de chrétienté, on trouve cela normal. Et dans les bonnes familles, on trouve normal de se donner du mal pour défendre la société. Par conséquent, aujourd'hui, où la société ecclésiastique, l'Église, la société civile aussi, mais où l'Église est particulièrement subvertie, la force est particulièrement importante. Or, il y a une espèce de tradition d'abandonner la force, et cela depuis, on pourrait dire, 2 siècles. Oui, 2 siècles. Je vous recommande la lecture du livre « L'Église et le ralliement » par Prévost. Prévost est un historien, il n'est pas un théologien, donc il a quelques affirmations sur les rapports entre l'Église et l'État qui ne sont pas tout à fait justes, qu'il faut prendre dans le contexte historique, qui sont justes dans le contexte historique, qui ne sont pas justes en théorie. C'est un détail, ça, parce que son livre n'est pas fondé là-dessus. Et Prévost montre que l'histoire de l'Église au XIXe et au XXe siècle est l'histoire d'une succession d'abandons, par manque de force, pas par défaite. Et c'est tout le libéralisme qui est le drame du XIXe et par conséquent du XXe siècle. Vous avez entendu parler du libéralisme. On vous a montré que c'était pas beau. Parce que cela finit par détruire la foi. Mais il faut que vous fassiez attention que la vertu de force est ce qui a manqué aux libéraux. L'un d'entre vous m'a écrit, après avoir écouté un des sermons sur la vertu de force, pour me dire, finalement, c'est l'enchaînement logique, c'est la foi, l'amour de la vérité, la force. Il est évident que la force repose sur la foi. S'il n'y a pas de foi, on ne considère pas les choses qui en valent la peine, donc évidemment, on ne risque pas d'exercer la force. L'amour de la vérité, pourquoi ? Et ça, c'est un autre fidèle qui me l'écrit, qui me dit, je me demande si la valeur des principes n'est pas aujourd'hui plus importante que la foi. Et c'est vrai, parce que l'amour de la vérité, c'est de considérer que la foi s'impose, que la vérité s'impose, qu'on n'a pas la foi dans un coin de la tête, on y croit, bien sûr, mais ça ne descendrait pas dans la vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans la tradition et même dans l'Église, qui ont la foi mais n'ont pas l'amour de la vérité. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas la force. Et le ralliement de l'Église a commencé avec le concordat de Napoléon. Les évêques ont été nommés d'une manière à ne pas déplaire au gouvernement. Rares sont les évêques qui ont osé, comme le cardinal Pi, s'opposer au gouvernement, à Napoléon III. La plupart des évêques faisaient en sorte que tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est-à-dire sans heurts, c'est-à-dire sans force. Et il faut revenir sur le ralliement de Léon XIII. Lorsque Léon XIII a demandé aux catholiques français de se rallier à la République, il a fait à l'évidence un acte de lâcheté. Il y a eu un manque de foi, c'est évident. Il y a eu un manque d'amour de la vérité. Il y a eu un manque de connaissance. Non, pas de connaissance de ce qu'est une société, parce qu'il a fait de très belles encycliques sur la société. Il savait ce qu'était une société. Enfin, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que il insistait énormément sur l'autorité. Et justement, l'autorité peut être subversive. Ce qui prouve que l'autorité n'est pas... C'est pas par elle qu'on définit la société, c'est par la foi, par le bien, par la vertu. Et les catholiques ont été très peu nombreux à s'opposer à Léon XIII. Ça a été un drame. Et ils auraient dû le faire. Respectueusement, bien entendu. Il ne s'agit pas de le faire déchoir du trône pontifical, mais de lui dire, très Saint-Père, vous vous trompez, vous avez tort, et vous êtes faible. On voit la vertu de force, par contre, chez Saint Pie X. Lors de la séparation de l'Église et de l'État, les cardinaux et archevêques de France se rendent à Rome, près du pape Saint Pie X, pour le supplier d'accepter les conditions posées par le gouvernement français pour conserver les églises, les bâtiments. Les conditions posées par le gouvernement français, c'est pratiquement le renouvellement de la constitution civile du clergé, de 1790, je crois, 9, je sais plus. Vous vous rappelez, lors de la Révolution française, la constitution civile du clergé, qui était une constitution schismatique d'abord, et puis qui menait à la perte de la foi et la destruction de l'Église par la soumission de l'Église au pouvoir civil, et puis introduisait la démocratie dans l'Église. Les martyrs, les prêtres et les martyrs de la Révolution, les prêtres surtout, ont été martyrs pour justement sauver l'Église. Je vais vous raconter un très bel exemple. Écoutez-moi bien, les enfants, parce que quelques-uns de vos parents m'ont dit que quelquefois je ne pensais pas assez à vous. Alors là, j'ai fait un effort. Le curé de Champzaux, en Vendée, avait eu le malheur de me prêter le serment exigé par la constitution civile du clergé, et donc de trahir l'Église, il faut dire le mot. Il s'était vite rendu compte de son erreur, et il s'était repris, et il avait repris son serment, et était un prêtre très estimé, qui avait fait beaucoup de bien dans la paroisse de Champzaux. La paroisse de Champzaux a été martyrisée plusieurs fois. On arrive en 1794, c'est assez tard, c'est plutôt vers la fin de la Révolution. Les Bleus, les Républicains, attaquent une nouvelle fois le village, et alors les défenseurs du village se réfugient dans le clocher, qu'on voit encore, se réfugient dans le clocher et puis sont presque inexpugnables. Les Républicains trouvent le moyen de les vaincre en accumulant des fagots en bas du clocher, à l'intérieur, mais en bas du clocher, et puis ils mettent le feu aux fagots. Alors le feu monte et puis prend dans la charpente du clocher. Le sacristain, alors les Bleus disent « Rendez-vous, vous aurez la vie sauve. » Et le sacristain dit « Il n'en est pas question, d'abord parce que nous n'avons pas confiance dans la parole des Bleus qui ont menti plus d'une fois. Et puis, je ne veux plus vivre dans ce monde. Je préfère mourir que de vivre dans ce monde révolutionnaire, vertu de force. » La force fait faire un choix. Et n'allez pas croire, mes bien chers frères, n'allez pas croire, mes enfants, qu'il se suicide, qu'il a tort. Non, 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 non. Non, le suicide, ça serait de faire exprès de se tuer. Mais il est dans une situation d'un monde qui est opposé à la foi. Ses ennemis le mettent dans une situation où il va perdre la vie. Il va certainement pas s'abaisser devant eux, leur demander grâce, il n'a rien à leur demander, et il préfère mourir que de vivre dans ce monde de lâche. Le curé, lui, quand les flammes montent, commence à lécher les jupes des femmes qui sont réfugiées dans le clocher avec les défenseurs. Le curé, lui, dit, bah écoutez, on va perdre la vie, perdu pour perdu, fini pour fini, même si ils ne tiennent pas leur parole, il y a une petite chance malgré tout que nous nous sauvions. Et à ce moment-là, le sacristain dit au curé, Monsieur le curé, Dieu vous donne tout de suite une magnifique occasion d'expier la faute que vous avez faite en prêtant le serment autrefois, alors ne la perdez pas. À ce moment-là, un bleu tire un coup de fusil, la balle traverse le calice, parce que comme le calice est sacré, le curé avait pris le calice qu'il serrait sur sa poitrine, des choses sacrées, et on en prenait soin. La balle traverse le calice, on l'a encore, le calice troué de la balle, traverse le cœur du curé qui tombe dans le brasier. Voilà un très bel acte de force de la part du sacristain, et il a communiqué sa force au curé. Nous avons eu donc Saint Pie X. Les cardinaux et archevêques de France viennent le voir pour le supplier d'accepter les conditions du gouvernement français qui sont le renouvellement de la constitution civile du clergé. Je ne vais pas vous faire un cours de droit sur les cultuels. Le pape, c'est raconté par ses biographes, le pape regarde la croix et il dit: Je connais la valeur du clergé de France, je sais qu'il est capable de vivre dans la pauvreté, je refuse ces conditions. Parce que c'était pas seulement perdre les églises, c'était perdre les revenus du clergé, c'était perdre tous les biens de l'église, tout ce qui matériellement permettait au clergé de vivre et d'exercer la charité. Les cardinaux et évêques en ont été pour leurs frais. Par contre, brillant président du Conseil, sous la Troisième République, Briand a pris contact avec Pie XI parce que la fermeté de Saint Pie X faisait que le gouvernement n'avait plus aucun moyen de pression sur la nomination des évêques, il n'avait plus aucunement la main sur la nomination des évêques, ils étaient bien embêtés, parce que le gouvernement aime bien choisir les évêques. Comme ça, il a des alliés bien, bien à lui. Briand reprend contact avec Pie XI et dit à Pie XI: Vous me rendez la surveillance de la nomination des évêques et je vous rends vos églises. Pie XI a accepté et il a accepté ces associations cultuelles que Pie X avait condamnées. Alors il a sauvé quand même, attendez, il n'a pas complètement trahi parce qu'il a obtenu que l'évêque soit toujours le chef du diocèse, donc il a quand même refuser l'essentiel. Mais il a fait un accord avec le gouvernement. Or, l'Écriture sainte nous dit, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Pie XI a été lâche au moment de la guerre du Mexique, la croisade du Mexique. Quand on pense que la gloire de l'Église au Moyen Âge est d'avoir suscité sept croisades pour défendre les lieux saints et pour protéger la foi chrétienne contre la barbarie musulmane. Et on a, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, la barbarie franc-maçonne qui cherche à détruire la foi dans ce pays magnifiquement catholique du Mexique, un pays extraordinaire, sanctifié par des centaines de missionnaires, des milliers de missionnaires espagnols qui ont fait de ce pays un pays magnifiquement catholique. Les francs-maçons mettent la main sur le pays avec l'appui des États-Unis, il ne faut pas l'oublier, parce que peu importe, on vous donnera les détails après, mais il y avait aussi du pétrole dans l'affaire. Que fait Pie XI? il dit aux catholiques mexicains, je vous interdis de vous défendre. Il leur dit, je vous interdis de faire de la politique. Or, qu'est-ce que c'est que la politique? Un homme est un animal politique. L'homme est au service de la société. Il est d'abord au service de la société avant d'être au service de sa vertu personnelle. Donc, interdire à un homme de faire de la politique, c'est le réduire à une nouille. Une sainte nouille personnelle. Le clergé a reçu des propositions du gouvernement du Mexique. Si vous vous réunissez dans les villes, nous pourrons vous surveiller et donc nous vous laisserons libre. Eh bien, les évêques ont demandé à tout le clergé des campagnes de se réunir dans les villes. Comme ça, le clergé a eu la paix. Puis le gouvernement aussi, d'ailleurs. Et vous imaginez, c'était un pays dans lequel il y avait peu de villes et beaucoup de campagnes. Ça veut dire que les campagnes étaient complètement désertées des prêtres. Et vous n'avez qu'un ou deux évêques qui aient soutenu les Cristeros, c'est-à-dire les croisés du Christ roi contre les francs-maçons. Et lorsque les États-Unis sont intervenus, ils sont passés par un ou deux évêques mexicains qui ont fait pression sur Rome, et Rome a fait pression sur les catholiques mexicains pour rendre les armes sans aucune contrepartie, ce qui fait que tous les Cristeros ont été massacrés dans les 10 ans qui ont suivi. Voilà, je suis encore un petit peu long, excusez-moi, mais je voulais vraiment insister sur le caractère public de la vertu de force. Alors aujourd'hui, le drame de la fraternité Saint-Pédis, mais c'est une évidence. J'ai beau avoir beaucoup aimé mes confrères et avoir eu beaucoup d'estime pour eux, c'est une évidence que ce qui manque chez les bons prêtres de la fraternité Saint-Pédis, c'est la vertu de force. Et chez les bons fidèles, quel est le fidèle aujourd'hui qui va aller voir son curé en lui tenant le langage du sacristain de la paroisse de Chanzeau? C'est une évidence. Si j'insiste là-dessus, c'est pour cela. Alors ne regardez pas ce que vous allez perdre. Vous perdrez peut-être vos paroisses, vous perdrez peut-être vos écoles, vous perdrez peut-être la vie sociale, je ne sais pas. Mais il faut défendre la foi et l'Église. Et je vous l'ai dit, peu importe qu'on ait le succès ou qu'on n'ait pas le succès, parce que c'est une question d'honneur de Dieu. Le libéralisme aujourd'hui continue justement dans cette faiblesse. Et alors, vous avez deux types de faiblesse. Vous avez la faiblesse ordinaire et vous avez la faiblesse qu'on prétend justifier. Le libéralisme est cette attitude qui prétend justifier la faiblesse. La plupart des lâches cherchent à se justifier. Rares sont les lâches qui se disent « c'est vrai, je suis lâche ». Allez, les enfants, je vous raconte une dernière histoire. Elle est racontée dans « Inuk au dos de la terre ». L'auteur, le père Bulliard, raconte cette histoire qui est arrivée à un de ses confrères, qui était un missionnaire extraordinaire, d'une puissance, d'une force extraordinaire. Ce jeune homme avait 16-17 ans, il était malade à l'hôpital, sans que ce soit très grave, et une bonne sœur le soigne, et pour être aimable avec lui, elle lui dit « Alors jeune homme, dès que vous serez guéri, et que vous allez sortir, et c'est pour bientôt, alors qu'allez-vous faire ?»« Oh ben ma sœur, j'avais eu la vocation. » Mais après tout, c'est quand même pas obligatoire, et bon, je crois que je vais me trouver une situation dans le monde. À ce moment-là, la bonne sœur lui donne une paire de gifles magistrales. Elle lui dit « Comment, jeune homme, quand on a été appelé par Dieu, c'est ainsi qu'on parle ?» La vertu de force de la bonne sœur, pour le service de Dieu. Oui, mais c'est qu'elle a communiqué sa force au jeune, qui du coup est entré chez les Oblats de Marie Immaculée, et il faut lire les récits des missionnaires chez les Esquimaux, c'est la même chose que chez les Papous, sauf qu'il a fallu encore plus de force, parce que chez les Papous, il y a eu un succès extraordinaire assez rapidement et très encourageant, tandis que chez les Esquimaux, il n'y a quasiment pas eu de succès. Voilà. Vertu de force également, je termine là-dessus, mes chers amis, les enfants, les jeunes, la vocation. Attendez, c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire de l'ami du père Bulliard. Combien êtes-vous, mes chers enfants, à dire « Oh bah, après tout, je me trouverai un métier ». Ah, vous allez me dire « Oh mais moi, j'ai pas entendu l'appel ». Comment vous avez pas entendu de l'appel ? Mais moi, je viens de vous le faire, l'appel. Hier, il y a 3 jours, j'ai enterré un prêtre avec Monseigneur Faure, j'ai enterré un prêtre. Il y avait un jeune qui était là, un très brave jeune. Avec ses parents, il dit « Ah, mais qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous devenir ? Nous n'avons plus de messe, il n'y a plus rien. » Alors je me tourne vers le jeune qui avait 17-18 ans. Je lui dis « Mais c'est à vous de remplacer le père Maurice Duployer. C'est à vous !» Et mes chers amis, là, vous qui m'écoutez, je fais un sermon sur Internet, vous trouvez ça normal, vous ? Que je suis obligé de prêcher sur les ondes pour vous atteindre ? Est-ce qu'il serait pas normal que vous ayez des prêtres, chacun dans votre ville, chacun à disposition de vos familles ? Ça suffit comme appel. Le bon Dieu n'a pas besoin de vous envoyer un SMS, hein ? Cet appel-là suffit ? Il suffit de regarder ? Et je suis persuadé que si on regarde pas, c'est parce qu'on est lâche et qu'on n'a pas la vertu de force. Alors, on vous le dit souvent, mes chers enfants, mes chers amis, c'est pour les enfants, vous êtes des grands, là, ceux auxquels je m'adresse. On vous dit, soyez des hommes. Mais c'est ça, être un homme. Allez, demandons à la Sainte Vierge, et puis confions-nous à elle pour qu'elle nous donne vraiment cette vertu de force et qu'elle nous fasse échapper à cette sale, mauvaise habitude qui a pénétré partout, cette habitude de lâcheté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.